RCFM, c'est votre jour de science. Fabrice Fenouillère, Christophe Zagaï.
Salut Fabrice.
Salut Christophe.
Ça va?
Oui, en pleine forme, encore
c'est
une
bien
fois.
Bien passé?
Oui, et vous?
Bon, très bien, très bien. Aujourd'hui, on va remonter au plus loin que nous ramène notre histoire.
Yes.
Pour parler de la naissance de l'univers et du Big Bang en compagnie de l'un des plus brillants spécialistes français de la question, Jean-Philippe Uzan, physicien, théoricien, spécialiste de cosmologie et de gravitation, directeur de recherche au CNRS, il travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris, auteur dernièrement de Big Bang, comprend l'univers depuis ici et maintenant, paru chez Flammarion.
Oui, c'est vrai Christophe qu'on est vraiment très heureux d'emmener aujourd'hui nos auditeurs voilà, aux confins du cosmos, de l'espace et du temps, eh bien, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est pas si simple, hein. Il y a 13,7 milliards d'années environ, lorsque tout a commencé. On va voir que si après la première seconde de ce fameux Big Bang, les théories et les observations permettent plutôt d'écrire une histoire claire de l'univers, l'étincelle originelle, l'étincelle avec des guillemets, hein, quant à elle, continue de poser des questions. Et pour nous aider à mieux comprendre les possibles constructions de ce modèle primordial, nous avons la chance, vous l'avez précisé, d'être en compagnie du cosmologiste Jean-Philippe Uzan. Alors si je dis la chance, c'est parce que notre invité est bien plus qu'un scientifique enthousiaste à la carrière prestigieuse, c'est aussi un musicien, un écrivain, un penseur, un boulimique de savoir qui aime complètement décloisonner la connaissance, multiplier les incursions dans l'art et sortir de son bureau pour mettre des étoiles dans les yeux de tous ceux que les sciences de l'univers font rêver.
C'est votre jour de science, l'expert.
Bonsoir Jean-Philippe Uzan.
Bonsoir.
Salut Jean-Philippe.
Merci d'être avec nous. Une question toute simple pour commencer, Jean-Philippe, histoire d'évacuer rapidement le sujet. Est-ce qu'on sait vraiment quand tout a commencé?
Eh bien non, on ne sait pas.
Bon, on arrête l'émission alors.
Non, on n'arrête pas l'émission. C'est là où la science commence à être intéressante, c'est quand on peut dire « je ne sais pas
eh ». Oui.
Parce que vous voyez, la science explique un certain nombre de phénomènes et toute explication porte en elle des questions. Si vous expliquez une voiture, bah, il va falloir expliquer les éléments de la voiture. Si vous l'expliquez, il va falloir encore comprendre comment on les a fait et ainsi de suite. La science ne fait que repousser des questions. Et donc, ce qui est beau, c'est de se dire qu'on est capable de comprendre autant de choses sur la nature dans laquelle on vit, mais qu'il y a toujours des questions, et en particulier les questions d'origine qui semblent rester en dehors du champ explicatif de la science.
Alors, est-ce qu'on peut quand même dire, Jean-Philippe Uzan, que après la première seconde, voire le premier dixième de seconde, on sait à peu près ce qui s'est passé. Là, il y a les théories et les observations qui ont l'air de vouloir bien collaborer ensemble. Mais avant cette première seconde, ce fameux Big Bang, un mot anglais peut-être qu'il faudrait définir, on ne sait pas vraiment.
Oui, on peut dire ça. C'est vraiment peut-être la conclusion qu'il faut garder. Il y a eu, en fait, on travaille sur la compréhension de l'univers avec la science depuis environ un siècle, grâce à la théorie de la relativité générale d'Einstein. Avec les développements de l'astrophysique, on a réussi à remonter de plus en plus dans le passé. Et jusqu'à une seconde, on a une théorie que l'on peut tester par des observations. Et là, ça colle à peu près. Il y a toujours des petites questions qui restent, mais on a quand même une histoire globale de l'univers depuis une seconde après ce Big Bang jusqu'à aujourd'hui, où on comprend l'origine de la matière, l'origine des étoiles, l'origine des galaxies. Donc un certain nombre de phénomènes que l'on peut observer dans notre univers.
Et néanmoins, quels sont les modèles? Alors allez, on va vraiment mettre les pieds dans le trou noir, ou en tout cas les pieds dans le plat. Qu'est-ce qu'on a comme, un petit peu simplement, enfin c'est pas simple du tout, mais si on devait les simplifier, les résumer, comme phénomènes qui pourraient être en explication de ce qu'il y a avant cette première seconde?
Alors ce qu'il faut, c'est déjà que les gens comprennent ce que l'entend nous les scientifiques par le mot Big Bang. Parce
exact.
Que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un fiat lux, que c'est une création de l'univers. Et en fait, ça pose déjà problème. Donc avant de parler de ça, peut-être, laissez-moi juste dire ce que l'on entend par ça. On a une description de notre univers qui est une théorie. Ça repose sur des théories scientifiques que l'on va extrapoler pour essayer de remonter toujours plus loin dans le passé. Et ce qu'on observe, c'est que quand on remonte dans le passé par les mathématiques, il y a un moment où l'espace et le temps eux-mêmes semblent disparaître. Ils ne font plus sens. Il n'existe plus. C'est pas comme si on peut parler d'avant, c'est même, il n'y a plus de temps, donc on peut même pas penser la question de l'avant. Alors bien sûr, ça c'est quelque chose qu'on a remarqué dès les années 1920-1930, et les scientifiques se sont vraiment posé la question, c'est quoi la nature de ce Big Bang? Et il y a un de ces très grands scientifiques qui s'appelle Georges Lemaître, hein, qui était un cosmologiste, mais aussi un chanoine belge, on le considère comme le père du Big Bang, qui a le premier compris que si en fait on arrive à cette sorte de singularité, c'est probablement parce que les théories que nous utilisons pour décrire l'espace et le temps ne sont plus valables. Il va falloir de nouvelles théories. Et là, aujourd'hui, on ne les a toujours pas.
D'accord.
Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir une théorie en particulier de la gravitation qui dépasse la théorie d'Einstein, ce qui est le cas, par exemple, des théories de gravité quantique, comme la théorie des cordes ou la théorie quantique à Bloch, eh bien, chacune des théories va offrir un scénario qui va remplacer cette fin de l'espace et du temps.
D'accord.
Alors, et là, on peut imaginer beaucoup d'histoires. Le problème, c'est que elles vont dépendre du cadre théorique que l'on va supposer correct. Et pour l'instant, on n'a aucune observation qui nous permet de dire si cette histoire est correcte ou pas.
Et c'est vrai que c'est intéressant, hein, et vous avez vraiment bien fait de revenir à la genèse même de ces réflexions et de cette histoire la plus lointaine vers laquelle on a pu remonter. Parce que tous les auditeurs et nous-mêmes ne sont pas forcément des spécialistes de la question. Et oui, à un moment donné, ça se fait sur la table, ce qu'on imagine. C'est-à-dire, c'est pas une observation avec lunettes qui dit tiens, on va essayer de comprendre par là-haut comment le Big Bang s'est passé un jour. C'est bien des formules, hein, c'est bien des théories, c'est bien des mathématiques. Il y a un petit peu quand même de métaphysique et de philosophie là-dedans ou pas?
Pas vraiment. C'est-à-dire, c'est quand on va commencer à vraiment extrapoler. C'est-à-dire que quand on va se poser la question de les propriétés de l'univers dans sa globalité, que là, on va commencer à parler de choses que l'on ne peut pas tester par l'observation. Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça de la métaphysique, de la philosophie, mais c'est de l'extrapolation et on perd finalement le contact au réel parce qu'on perd la notion de mesure. Et donc, tout à l'heure, ce que je disais sur le Big Bang, peut-être qu'il faut, voilà, s'il y a une idée que les gens doivent garder en tête et qui leur sera utile indépendamment de la compréhension de l'univers, c'est qu'il ne faut pas confondre la description d'un objet avec les propriétés de cet objet. La théorie de la cosmologie donne une description de l'univers. Ce Big Bang apparaît dans cette description-là, mais on ne sait pas si elle a vraiment eu lieu dans l'univers ou si finalement c'est le moment où la description ne colle plus à l'objet lui-même que l'on cherche à décrire.
Et est-ce que les
scientifiques... c'est important.
Et oui, est-ce que les scientifiques du coup aiment bien ce mot de Big Bang qui, c'est vrai, marque complètement hein, l'actualité des séries télé. Enfin bref, on le voit un petit peu partout et c'est bien hein, parce qu'en même temps, il pose bien le sujet. Mais est-ce que les scientifiques l'apprécient?
Je ne sais pas s'il l'apprécie, à la fois, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un mot qui est très vendeur, je veux dire, c'est vraiment une très bonne marque. Si on avait voulu faire un coup de pub, on n'aurait pas pu faire mieux.
Carrément.
Et d'un autre côté, il est gênant parce qu'il met la lumière sur cette question d'origine qui est la seule qui est en dehors du champ explicatif de ce que fait la cosmologie. Donc vous voyez, on est un petit peu, c'est un peu ombre et lumière, c'est-à-dire que pour vous parler de la cosmologie, on vous vend finalement avec le nom la seule chose sur laquelle on n'a aucune explication.
Ouais, puisque c'est aussi embêtant quand vous parliez de, enfin presque de paradoxe, c'est que d'un côté on comprend plutôt bien par des observations comment les choses ont pu se passer, puis d'un autre côté il y a l'entrée de matière noire, d'énergie sombre, de choses dont on ignore la nature physique. Là c'est un paradoxe aussi, essayer de comprendre en utilisant des choses mais qu'on comprend pas elles-mêmes.
C'est ça, tout à fait. Alors là aussi, on a souvent l'impression que, voilà, on est des doux rêveurs. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, avec les observations, on a été capable, dans un cadre théorique donné, donc, bien sûr, on a des hypothèses, donc, faut se rappeler qu'on ne peut pas faire les choses sans hypothèses. Et dans ce cadre-là, pour avoir une cohérence du modèle, on voit qu'il existe de la matière que nous n'avons toujours pas détectée, dans les accélérateurs de particules ou sur Terre. Et donc, est-ce que la cosmologie a fait une grande découverte, en particulier l'existence de cette matière noire? On est capable de la caractériser, mais on ne l'a toujours pas détectée directement. Et là, on voit que, et c'est vraiment quelque chose d'important pour une discipline qui est bien vivante, de faire des prédictions et des potentialités de découverte. Et moi, je suis persuadé, d'ici une quinzaine d'années, voilà, on va dire entre 15 et 20 ans, que peut-être on va découvrir cette nouvelle matière. Mais on sait la décrire très finement, mais on ne l'a toujours pas détectée directement.
On parle de la naissance de l'univers et du Big Bang avec notre invité, spécialiste français de la question, Jean-Philippe Uzan.
France Bleu, RCFM. France Bleu.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair.
And her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go. But her friends are nowhere to be seen. And she walks through a sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, 'cause she's lived it 10 times or more. It's about to be lived again. As they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at that low man beating up the wrong guy. Wonder if you'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life on
Life on Mars, David Bowie.
C'est votre jour de science, l'expert.
La naissance de l'univers et du Big Bang, nous en parlons aujourd'hui dans C'est votre jour de science. Fabrice, en compagnie de notre expert spécialiste français de la question, c'est Jean-Philippe Usan, physicien, théoricien, spécialiste de cosmologie et de gravitation, écrivain également. Jean-Philippe, est-ce que l'univers il a forcément une origine finalement ?
Ah non, pas forcément. Pas forcément. En fait, nous constatons que l'univers existe. Nous constatons que nous sommes dans l'univers et nous arrivons à l'observer. Maintenant, est-ce qu'il a une origine? Je peux pas vous dire. Peut-être qu'il a toujours existé. Il y a des théories dans lesquelles l'univers a toujours existé, va avoir des métamorphoses. Il y a des modèles très très spéculatifs où il existe une infinité d'univers dans lesquels l'univers est un peu comme un champagne avec des bulles qui sortent et chaque bulle est une sorte de petit univers local comme le nôtre. Donc en fait, dès qu'on commence à poser ces très très grandes questions d'origine, il va y avoir, comme la science commence à se taire, on va avoir une grande crise. Et on voit que parfois on a certaines explications qui ressemblent plus à celles des mythes ou des religions. Et c'est là où la limite entre ce qui est l'explication scientifique et puisque l'on peut rêver en étant toujours compatible avec ce que l'on sait de la science et doit être faite de façon très très fine.
Et ça vous le faites fort bien personnellement, moi je le sais, Jean-Philippe Usan, en allant explorer, on le disait en introduction, les arts et puis voilà, en combinant comme ça les passerelles avec d'autres sciences et en confrontant les idées bien au-delà de celles des astrophysiciens, ça nous aide vraiment à rêver. Vous faites partie de ceux qui nous aident à rêver. Et si d'ailleurs on devait vous demander si l'univers a toujours eu cette tête-là, même si c'est un peu compliqué le Big Bang évidemment d'avoir des réponses, ça on l'a déjà compris, il y a 5 milliards d'années, il y a 10 milliards d'années, ça avait la même tête au-dessus de nous ou pas?
Ah non, l'univers n'avait pas du tout la même tête. Parce qu'une des grandes découvertes que l'on a faites dans les années 20, c'est que l'espace se dilate. En fait, toute la matière se dilue au cours du temps. Donc si on remonte dans le passé, la matière est beaucoup plus condensée, l'univers est beaucoup plus chaud. Et ce que l'on sait, c'est qu'il y a, on va dire, 11 ou 12 milliards d'années, il n'y avait pas de galaxies, il n'y avait pas d'étoiles. La matière qui nous constitue, le carbone, l'oxygène, qui font ce fameux CO2 qui nous embête, mais qui font aussi les molécules de notre corps, n'existait pas. Et on a compris d'où venait cette matière. Elle a été synthétisée dans les premières étoiles. Donc, si on remonte dans le passé, on sait qu'on avait un univers où la vie n'était pas possible. Donc ça, c'est déjà une première, vraiment quelque chose d'important. Et on a compris comment la matière se développait, il a fallu les premières étoiles, comment ces étoiles, en fin de vie, en donnant des supernovas, ont rejeté cette matière dans l'univers pour pouvoir ensuite donner d'autres étoiles, mais aussi des planètes, parce que là, on avait plus d'éléments chimiques, et donc donner les conditions pour que la vie puisse apparaître. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, Hubert Reeves avait un très beau mot, il disait que nous étions des poussières d'étoiles. Et en fait, c'est un fait scientifique, c'est-à-dire que la matière qui nous compose, à part l'hydrogène, a été synthétisée dans les premières étoiles.
Bon, on est tous des stars alors, il n'y a pas que vous.
Voilà, on est tous des stars, et puis surtout, c'est important, c'est-à-dire que moi je dirais que quand vous regardez le ciel la nuit, il n'y a pas besoin d'être scientifique, vous voyez ces petits points lumineux qui sont des étoiles, il faut se dire que vous avez un lien avec les étoiles, c'est-à-dire que ce qui se passe dans ces étoiles, c'est finalement la création des éléments chimiques qui sont identiques à ceux qui vous constituent, et que votre matière, celle qui fait votre corps, eh bien, il y a plusieurs milliards d'années, était dans une étoile. C'est quand même assez, assez fort, je trouve, que la science puisse permettre d'affirmer des choses comme ça.
Complètement, et ça va même au-delà de la poésie, puisque vous l'avez dit, c'est un fait scientifique, poussière d'étoiles nous sommes. Les galaxies, les étoiles, vous avez dit que là, on comprenait bien comment ça s'était formé. Il y a quand même des grandes énigmes encore au-delà du Big Bang, hein, tel qu'on l'a précisé dans l'univers, où tout est à peu près compris en dehors de lui.
Alors, vous l'avez évoqué, pour vraiment comprendre la formation des galaxies et la morphologie des galaxies, hein, leur forme, parce qu'il y a des galaxies de différentes formes, eh bien, il faut invoquer l'existence de cette fameuse matière noire dont on n'a aucune idée de la nature. Donc ça, c'est vraiment l'énigme, et on est un peu dans une situation très paradoxale, parce que si on suppose que cette matière existe, eh bien, le modèle marche très très bien, notre explication de l'univers marche très très bien, et pour autant, on n'arrive pas à cerner son identité exacte. Donc est-ce que on a fait une grande découverte qui va être avérée dans quelques années, ou est-ce qu'on est en train simplement de révéler une faille de notre compréhension de l'univers? Les deux sont possibles. Et ça, c'est aussi la beauté de la science, c'est-à-dire qu'on a des explications qui marchent très bien, et parfois, il y a un petit voile d'ombre sur un domaine, sur une partie de cette explication, qui peut se soulever, ou alors qui peut avoir en germe une révolution complètement de notre compréhension. Et c'est ça aussi qui est beau en science, c'est de partir de cette idée que toute notre compréhension n'est que temporelle, elle va changer avec le temps, elle n'est pas dogmatique. Et si on fait une nouvelle mesure, peut-être qu'un jour, on va dire, mais en fait, on peut avoir une nouvelle description, mais sans cette matière, peut-être en changeant les lois de la gravitation. C'est aussi possible. Donc, ça fait partie de notre but, en fait, d'explorer l'espace des possibles, et puis d'avoir un modèle de référence qui est celui qui marche le mieux avec ce que l'on observe, et de le tester toujours de plus en plus finement.
Jean-Philippe Uzan est Dieu dans tout ça.
Ah ah. C'est pas moi qui ai posé la question.
Non, mais c'est une question qui est légitime. Et vous voyez, elle se pose parce qu'avec le mot Big Bang et avec cette question d'origine, on a l'impression qu'il va y avoir une compétition entre une explication scientifique et une explication de nature religieuse. Et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à expliquer qu'il faut faire la différence, bien clarifier sur quoi la science s'exprime. Et comme je vous l'ai dit, elle ne dit rien du Big Bang, elle ne dit rien de l'origine de l'univers. Alors ensuite, elle ne dit rien sur Dieu non plus, ni pour, ni contre. Et je crois que c'est une attitude qui est saine aussi pour la société, c'est-à-dire que la science nous permet d'appréhender des propriétés de notre univers, et ensuite peut-être qu'il faut lui leur donner sens, et on peut avoir besoin de Dieu pour ça, ou pas. Et ça, je pense que c'est plus une question personnelle. La science vise à la création d'un savoir qui est un savoir commun. Les particules sont les mêmes, quelles que soient nos croyances religieuses, quelle que soit notre philosophie. Et c'est quelque chose sur lequel on peut construire communément. Et puis ensuite, on va avoir des divergences de croyances, de visions du monde. Et je pense que ça ne pose aucun problème. Et en particulier, il n'y a aucune opposition entre la science et la religion en ce qui me concerne.
Est-ce qu'un chercheur comme vous, Jean-Philippe, pour autant, aurait quelque chose qui le titille, qui le gratouille en disant, bah voilà, mes calculs, mes lectures, mes travaux me font penser que, pour revenir au Big Bang par exemple, ça doit s'être passé comme ça. C'est trop compliqué, hein. Ou alors vous avez des petits trucs quand même qui vous chagrinent, allez, et que vous auriez envie de développer davantage.
Non, c'est-à-dire on parlait de cette compréhension des phases les plus primordiales de l'univers. Au moment où on travaille, bien sûr, on est sur des théories que l'on aime plus ou moins, et ça c'est toujours difficile d'expliquer pourquoi. C'est parce que on a le sentiment que on est sur le bon chemin. Imaginez que vous soyez un peu dans la forêt amazonienne, vous êtes perdu, vous cherchez votre chemin de retour. Mm-hmm. Ben parfois vous trouvez une piste et vous avez faim. Ah, cette piste, je vais la suivre parce que peut-être qu'elle va m'amener vers quelque chose. Et c'est un petit peu ce qu'on fait. Et il est vrai qu'après vous allez passer des heures et des années à travailler sur cette idée-là, et quelque part vous vous auto-convainquez que c'est la bonne piste, parce que sinon vous passez pas autant d'énergie dans cette direction. Mais d'un autre côté, vous savez que vous faites un pari, qu'il n'est pas évident que vous soyez dans la bonne explication. Donc c'est un petit peu ça le travail du chercheur, et c'est très très difficile de l'expliquer, parce qu'en fait, les raisons qui nous font penser que telle voie est bonne ou pas, on a du mal à les expliquer, parce qu'elles sont vraiment en général abstraites, et elles ne sont pas toujours rationnelles.
Bon.
Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que dans le travail de la recherche en train de se faire, il y a une notion non rationnelle, presque artistique. C'est-à-dire, vous suivez un chemin parce que, quelque part, vous avez une intuition. ce que vous devez sortir de ce travail doit être complètement rationalisé, complètement partageable par toute la communauté. Mais au moment où vous allez dans cette voie-là, il y a un côté presque artistique.
Il y a aussi un côté artistique. Je ne sais pas si on peut en parler. Vous me dites et vous m'arrêterez tout de suite en criant stop, hein, ou on vous entendra l'autre bout du fil. Est-ce qu'on peut parler de ce projet Sanctuary? Il est très sympathique parce qu'il est entre l'art, entre l'envie d'amener les savoirs très très loin. En l'occurrence, je pense que ce sont des savoirs qui pourraient allunir sur 17 disques de saphir. Vous en parlez 30 secondes parce que vous y participez?
Oui, voilà. Donc ça, c'était une idée un petit peu folle d'un ensemble d'amis qui était de se dire, est-ce qu'on pourrait aller déposer un objet sur la Lune? On est allé sur la Lune en 1969, on va fêter les 50 ans du premier pas de Neil Armstrong le 20 juillet 1969 cet été. Mais depuis 1972, l'homme n'est plus retourné sur la Lune. Et là, à l'occasion de cet anniversaire, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui pensent retourner sur la Lune. Et on avait eu cette idée de se dire, ben, on aimerait bien poser quelque chose sur la Lune, parce que la Lune, c'est quand même l'astre qui est le plus proche de la Terre. Il n'y a pas besoin de télescope ou de lunettes. On peut le regarder avec nos yeux. On voit déjà qu'il y a des sortes de montagnes, qu'il y a des sortes de plaines. C'est un astre qui a fait rêver, qui est présent dans toutes les mythologies, dans toutes nos croyances, vraiment qui est un compagnon très proche de la Terre. Est-ce qu'on peut faire ça? Et on en a parlé. Et de fil en aiguille, on a eu la chance d'avoir qu'on nous offre en fait 800 grammes sur un atterrisseur lunaire qui va être lancé par SpaceX. Alors on ne sait pas si ça va être en septembre ou au mois de décembre, mais d'ici la fin 2019. Et donc tout le travail, c'est de se dire finalement qu'est-ce qu'on met, parce qu'on a été élu par personne, c'est un ensemble d'amis. Et donc on est arrivé sur cette technologie de disques de saphir qui sont gravés avec une très très grande précision, des pixels de 1 micron. Donc on parlait d'un disque de 9 cm de diamètre. Il faut imaginer que sur un tel disque, il va y avoir plus de 3 milliards de pixels. Donc vous pouvez coder énormément d'informations. Et l'idée, ça a été de se dire, eh ben, on va donner un regard sur l'humanité, mais pas une encyclopédie. On veut pas être exhaustif. Donc c'est là où l'art vous permet de vous libérer de ça. Donc ça va être du design graphique, il va y avoir de l'information scientifique, il va y avoir de l'information sur qui nous sommes, nous, en tant qu'humains sur cette planète, avec notre diversité, la diversité des langues, la diversité des cultures. Il va y avoir aussi de l'information sur les questions que nous nous posons aujourd'hui en termes de réchauffement climatique, de la hausse des océans, du carbone, de la pollution, de la disparition des espèces. Et un petit peu, pour qui on ne sait pas, c'est déjà pour nous aujourd'hui, c'est peut-être pour les gens, les humains dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, parce que ces disques vont pouvoir survivre pendant 500 000 ans. Pour les extraterrestres, s'ils existent, mais ça on est plus dans la science-fiction. Et moi, ce qui m'avait motivé dans cette idée, c'était un très beau film de Werner Herzog sur la grotte Chauvet, où on rentrait dans la grotte Chauvet, et on voyait ces peintures sur les murs. Et on voyait le discours des archéologues, 30 000 ans après, avec ces quels dessins, permettait de comprendre quels étaient ces humains, quels étaient nos ancêtres il y a 30 000 ans, comment ils pensaient, ce qu'ils étaient capables de concevoir. Et c'était un petit peu l'idée. C'est-à-dire que on voyait quelques peintures, c'était pas une encyclopédie de la faune animale il y a 30 000 ans, c'était quelques peintures.
Et il y aura sans doute, Jean-Philippe, des photos de Corse, hein, évidemment, puisque suite à votre passage à Galets, je sais qu'il y en a qui sont allés sur le site, on pouvait s'inscrire pour que sur ce disque, il y ait parfois une sélection de visages et de personnes qui souhaitaient participer de loin au projet.
Exactement.
Je sais qu'il y en a qui ont écrit, et c'est très très chouette. Christophe, je crois, va vous lancer sur un truc qui vous tient aussi à cœur au niveau de la Lune.
C'est un autre projet, un The Moon Again. Sortez vos télescopes, des scientifiques du monde entier vont nous inviter à sortir nos télescopes les 12 et 13 juillet prochains pour partager la Lune avec les passants. Vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce projet, sur cette opération, Jean-Philippe ?
Oui, tout à fait. Donc c'est dans le cadre de la célébration de ce cinquantenaire de l'homme sur la Lune. Et depuis 2 ans, avec en particulier Sylvain Boulet, qui est aussi venu à Galéa, à l'automne dernier, qui est un spécialiste de Mars, on avait pris cette habitude dans Paris de sortir un tout petit télescope dans la rue, comme ça, et d'observer la Lune. Et puis d'interpeller les passants, de leur faire voir la Lune. Et on a remarqué que quand les gens mettaient l'œil dans le télescope et voyaient la Lune vraiment, il y avait une émotion énorme. Les gens se mettaient à rire, les gens étaient sans mots, nous prenaient dans les bras, nous écrivaient ensuite. Et on s'est dit, c'est pas possible cette émotion, il faut la partager.
Les 12 et 13 juillet, The Moon Again, sortez vos télescopes, on en reparlera bien sûr. Merci Jean-Philippe Uzan d'avoir été
Merci
avec
à
nous,
vous.
Physicien, théoricien, spécialiste de cosmologie de gravitation. Merci de nous avoir parlé de la naissance de l'univers et du Big Bang. Et on peut aussi retrouver des tas d'informations dans votre ouvrage paru dernièrement, Big Bang comprend l'univers depuis ici et maintenant, paru chez Flammarion.
Merci beaucoup Jean-Philippe, à bientôt.
Merci à vous
bientôt.
Et puis mon amitié à tous nos amis corses.
Merci, à très vite, au revoir.
Au revoir.
C'est votre jour de science, dans l'actu.
Allez-y, lâchez-vous, Fabrice.
Non. Moi, simplement, je vais vous parler de la crise de la quarantaine. Ah. Tout simplement parce que ça vous concerne.
De moins en moins marrant. Alors, moi, j'en suis loin encore.
J'en sais rien. Si vous n'êtes pas, vous faites pas votre âge, alors, en ce moment-là.
Vous, par contre, vous l'avez dépassé.
Largement, moi. Fini l'insouciance. Fini l'insouciance de la jeunesse. Pas encore arrivé la sérénité du grand âge. Voilà. Avec cette crise de la quarantaine, on est dans un entre-deux fait de remise en question, paraît-il, de rides, parfois de bourrelets, de cheveux qui deviennent de plus en plus timides. Bref, pour tous ceux qui...
C'est une chronique autobiographique ou quoi?
Pas du tout, non, moi je connais pas ça, hein, mais enfin moi je me mets à la place des gens très régulièrement. Alors pour tous ceux qui auraient mal vécu ce passage, ou qui seraient en plein dedans actuellement, j'ai l'antidote à la déprime. Et cet antidote, c'est une étude irlandaise prouvant que les primates, écoutez bien cette affaire aussi, les primates aussi, les singes donc, connaissent une crise existentielle en milieu de vie. Pour les singes, c'est vers 28 ans en moyenne qu'ils perdent la banane. L'équivalent de notre crise de la quarantaine donc, leur humeur change, leur plaisir à vivre en communauté également, tout comme les efforts déployés au quotidien deviennent la chagorée comme jamais. Globalement, ils ont en fait la même courbe en U que nous. Satisfaction en début de vie, dépression dans la force de l'âge et remontée du moral une fois cette crise passée. Tout cela pour dire qu'une hypothèse est renforcée, celle selon laquelle la crise de la quarantaine pourrait avoir une origine biologique, avec des changements structurels de notre cerveau, un héritage de nos lointains ancêtres préhistoriques, on n'y peut rien, donc plus besoin de culpabiliser, ces questionnements existentiels sont tout naturels.
On voit que c'est du vécu. Hein. On va parler poisson.
Pour ma femme, notamment.
Peut-être que la chronique qui arrive aura un lien avec ce que vous avez dit. Figurez-vous que certains poissons mâles, plus ils ont de gros sexes, plus les femmes ont de gros cerveaux.
Je suis bouche bée, c'est pas comme vous dites.
Figurez-vous. Alors, chez les poissons moustiques, hein, c'est comme ça, les mâles tentent de s'accoupler de force avec les femelles, figurez-vous. Et la guerre des sexes qui en résulte peut provoquer, en fonction de la taille des parties génitales des mâles, un accroissement de la taille du cerveau des femelles. Le poisson moustique mâle n'est pas franchement un animal charmant. Hein, un petit peu comme vous, et contrairement à d'autres espèces, ce minuscule vertébré n'essaie pas de faire la cour ou d'impressionner sa partenaire pour s'accoupler. Non, il tente de la surprendre, mon cher Fabrice. D'accord. Il utilise pour cela son gonopode, une structure tubulaire issue de la nageoire anale qu'il essaye de glisser dans la femelle pour fertiliser les œufs qu'elle porte. Un mode d'accouplement qui, sans surprise, n'est pas particulièrement bénéfique aux femelles, à moins d'être particulièrement vigilante. Ces dernières sont perpétuellement harcelées, n'ont que peu de contrôle sur la paternité de leur progéniture. Ce conflit sexuel a particulièrement intéressé une équipe de chercheurs suédois et australiens qui se sont demandé s'ils pouvaient influencer le développement du cerveau des poissons moustiques. Les scientifiques ont donc décidé d'élever trois lignes de poissons moustiques, l'une remplie de mâles dotés de grands gonopodes, l'autre de mâles avec de petits gonopodes et une troisième ligne test contenant des femelles de toutes sortes. Vous avez vu, je mets quand même...
C'est des beaux châtiers, hein. Gonopodes, ouais, j'avais jamais entendu comme métaphore de...
Ils ont attendu la reproduction de 9 générations, puis ont mesuré la taille des cerveaux des poissons des 3 élevages. Résultat, dans la ligne des mâles aux grands gonopodes, les femelles avaient un cerveau plus large et 6% plus lourd que celui des femelles des autres lignes.
Ouais, je sais pas quoi dire. Oui.
On a perdu notre technicien, Doumé Mourad, qui est atterré.
Je sais pas.
Voilà, c'était gens... la chronique du jour.
Avec plein de grands cerveaux autour de nous et plein de petits gonopodes dans le studio, donc c'est, on est rassurés.
Exactement. Voilà, je ne sais pas si ça voit avec la crise de la quarantaine, mais écoutez, voilà, vous aurez moins.
Enfin, tout ça est très scientifique, hein, donc très sérieux.
Oui. Tout parfait. Est vérifié, ah, parfait, et tout est vrai. Hein,
bon, c'est beau la science.
Voilà, ben écoutez, à la semaine prochaine, si tout va bien.
Avec grand plaisir.
Et on peut réécouter, bien sûr, cette émission sur bleurcfm.fr.
À bientôt.
À très vite.
Ciao.